Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Initiative solidaire et citoyenne. Nous allons parler des EMI, des expériences de mort imminente, avec Jordan Vial. Bonjour Jordan.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, on va parler des EMI et du rêve. Alors pourquoi ?
Eh bien parce que, comme je l'ai un petit peu introduit dans le cinquième épisode, comparer les expériences de mort imminentes à des rêves va devenir évident. Je m'explique. Ce n'est pas le moi de surface qui produit la conscience, puisque après son effondrement au début de la première EMI, on ne peut que constater cette évidence, il n'y a aucune rupture de conscience en franchissant les portes de la mort. Qu'est-ce que la mort, puisque ce centre immortel, ce nœud de l'être, a persisté ? La conscience était bel et bien présente. Elle s'est vue libre de réintégrer les hauteurs du champ comme sa propre demeure. Elle est retournée à sa nature de pure conscience, s'est retrempée dans d'autres mondes fréquentiels et s'est comportée comme un rêveur qui a sauté de manière fulgurante dans un nouveau songe. Elle a poursuivi des voyages propres à sa nature de conscience dans des espaces multidirectionnels, se donnant de multiples formes, se mirant en tous les aspects de sa propre production, au gré de ses jeux de configuration, jouant dans sa propre trame, celle du champ, associant des informations, surfant sur ses propres ondes, y créant des chocs de force avec leurs échos aux formes mathématiques ou plus imagées. Chaque forme d'elle-même se mouvait à des vitesses incommensurables, pouvait se transformer en des apparitions substantielles, animées de qualités supralumineuses, ou disparaître, lumière dans la lumière, en des absorptions silencieuses. Ce qui est étrange, c'est que ces EMI paraissaient plus réels que la réalité du moi de surface. Beaucoup d'expérienceurs, d'ailleurs, disent l'avoir ressenti ainsi et témoignent de cette impression d'avoir plongé, d'avoir vécu, d'avoir donc été cette réalité plus réelle et plus vraie que dans leur vie à dimension terrestre. Comme disent les bouddhistes, nous avons vécu dans une claire conscience, nous avons été cette claire conscience. Et au retour, le fait d'avoir à nouveau enfilé le vêtement de chair a redessiné une limite à cette claire conscience, donnant à nouveau cette illusoire sensation d'avoir un intérieur et un extérieur de ce sac de peau, avec toutes les frustrations de ne pouvoir restituer la vastitude du voyage de pleine connaissance. Reprenons l'idée du rêve. Qui nous dit que nous ne sommes pas dans un rêve, lui-même dans un rêve, lui-même dans un rêve ? Nous croyons savoir que nous sortons du rêve de la nuit pour entrer dans ce qu'on appelle l'éveil à la conscience du jour. Mais rien ne prouve qu'on n'entre pas justement dans un autre rêve au soi-disant réveil. Pour un kabbaliste, le jour commence au coucher du soleil. Le sommeil qui s'ensuit est un espace de reconfiguration d'informations et au moment du pseudo-réveil commence la mise en œuvre du rêve dans le monde des formes. Toby Nathan, ethnopsychiatre et spécialiste des rêves, dit bien que les configurations de notre journée, ce que nous avons vécu dans ce pseudo-état de veille, se déstructurent dans le rêve et les éléments de la journée se redistribuent, se réorganisent en de nouvelles configurations que nous allons expérimenter le jour suivant. Sacrée ressemblance avec les EMI. L'expérienceur revient du coma, il est le même et pas le même. Déstructuration et restructuration. Et nous revoilà en tant que rêveurs complètement remodelés, prêts à replonger dans un nouveau rêve. Mais alors, qui est ce rêveur qui passe d'un rêve à l'autre, qui se voit dans son rêve au milieu d'autres rêveurs avec qui il interagit, en ignorant que ce sont des aspects de lui ? Il surfe sur les vagues de sa propre conscience, il y construit des architectures, associe des mouvements de force et d'énergie en des formes pensées, des formes sensitives, des formes émotionnelles, des formes denses ou subtiles produites par les pouvoirs illimités du rêve. Ce rêveur, donc, est-il celui qui produit le rêve ou celui qui s'apparaît à lui-même dans le rêve ? Est-il la forme projetée d'une conscience plus grande qui impulse un souffle d'information qui fait apparaître un rêveur dont le cerveau décode ce souffle créateur en récit, donnant des architectures mémorielles au rêveur qui les prend pour siennes et lui donne une sensation d'identité. Le rêve devient alors, on pourrait dire entre guillemets, « existence », et si le rêveur se réduit à cette existence qu'il s'attribue, il oublie alors qu'il a ce pouvoir de faire des sauts dans une multiplicité de rêves et de réaliser que son « moi vrai » n'est autre que cette conscience qui insuffle la vie, est la vie. Eh bien, lorsqu'un corps est plongé dans un coma avec encéphale au plat, la question du rêve dans le rêve à l'intérieur d'une claire conscience n'a rien d'absurde. Au retour des EMI, j'étais animé de ce désir impérieux, doublé d'une forme d'urgence, de devoir décoder ces expériences. Je savais que j'étais encore et toujours dans ces grands rêves du champ et que le rêveur revenu sous la forme de Jordan n'en était qu'une nouvelle formulation. Il m'anime et vibre sans cesse en moi. Il est donc essentiel que je décode les grands rêves. Non pas pour leur donner du sens, puisqu'ils étaient le sens même, mais pour retrouver la langue du rêve, continuer à parler cette langue, ce langage avec toute identification quand le rêveur savait encore qu'il était un rêveur et qu'il ne se prenait pas pour autre chose, quand il était la mémoire vivante de la langue de la conscience. Car cette vie en mort en nous, ce nœud de l'être, lorsqu'il est dépouillé de son identité de surface et qu'il réalise qu'il n'a jamais quitté la demeure du champ, c'est, oui, c'est ce langage. Puisqu'il reconnaît toute la vérité du champ de conscience, il est chez lui et il parle le langage de chez lui, il est cette vérité, il est la conscience qui la formule en prenant les myriades de visages du rêveur. Écoutez ces trois citations de Sri Aurobindo. La première, ce que nous appelons notre conscience n'est qu'un fragment, un rayon brisé de la conscience réelle. Elle est comme un rêve dans l'esprit qui est éveillé. Deuxième citation, l'être mental vit dans un rêve de séparativité, un rêve qu'il prend pour la réalité. Il ne connaît pas ce qui est derrière. Il ne connaît pas ce qui est autour, il ne connaît pas ce qui est dedans. Et un court extrait de Savitri, qui est vraiment le chef-d'œuvre de Sri Aurobindo, c'est un long poème initiatique. Il dit « Le monde qu'elle traversait n'était qu'un songe de l'infini, un rêve projeté par l'éternelle conscience. » Et je voudrais aussi vous parler de Mahananda Moyi. Connaissez-vous Mahananda Moyi ? C'était depuis son plus jeune âge une grande mystique indienne, née au Bengale en 1896 et décédée en 1982. Vers l'âge de 30 ans, elle a vécu une transformation intérieure radicale, un éveil spirituel total, sans maître et sans avoir suivi aucune tradition. Elle était dans une joie constante et on lui a donné ce nom qui signifie la mer inondée de béatitude. Sri Aurobindo disait d'elle qu'elle avait atteint la supramentalisation. J'expliquerai cela plus tard. Et voilà comment cela se manifestait. Des gens du monde entier, des disciples, des chercheurs venaient la voir pour solliciter ce grand maître spirituel qu'elle était. Avoir ses conseils, ses guidances. Elle impressionnait par sa présence lumineuse, sa douceur et une sagesse qui semblait jaillir d'une source intemporelle. Quand les gens se présentaient à elle, son visage et parfois son corps entier se transformaient pour prendre l'apparence d'une divinité ou d'un démon. Beauté, mensonge ou laideur en chacun se manifester dans la plasticité totale de sa matière. Comme un miroir sans concession. Vous pouvez imaginer le choc que certains devaient avoir. En plus, elle qui n'était jamais allée à l'école, parlait instantanément la langue de son interlocuteur. Si elle était avec un mathématicien, elle parlait de mathématiques. Avec un politicien, elle parlait de politique. Elle savait instantanément ce qui se passait à l'autre bout de la planète. Quelle que soit la personne en sa présence, elle avait son langage et manifestait ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle et ce qu'elle voyait de l'autre à l'intérieur d'elle. Voyez-vous ce que je veux dire ? Quel que soit le rêve dans le rêve, c'est la conscience qui se formule dans le langage du rêveur et du rêve. Le rêveur rencontre en son rêve tous les aspects de la conscience en lui-même qu'il prend pour d'autres rêveurs. Si le rêveur n'est pas figé dans son identité de surface, alors il laisse la conscience parler en lui, à travers lui. Rien n'y fait obstacle. Et la conscience en lui exprime tous les pouvoirs de son verbe créateur. Celui de guider, d'instruire, de guérir, de transmuter, de révéler la vérité à d'autres rêveurs. Et le rêveur sait qu'il est un en la conscience et en sa propre animation. Voilà ce que manifestait Mahananda Moyi, dans une plasticité totale. Plongez-vous dans son regard, allez voir son visage, et vous plongerez dans le regard de la conscience. Vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi il est si essentiel de gardienner les rêves des EMI, ces extraordinaires voyages dans le champ. Par expérience, je sais que le champ n'est pas dans un ailleurs. Nous ne le quittons jamais. D'où se situe le regard de la conscience ? D'où se situe-t-il ? Dans un brin d'herbe, une fourmi, un humain, que vous l'appeliez monstre ou saint, tout se vit, tout se déroule, tout se formule en le champ, en cette matrice de la conscience, en son propre contenant. Nous avons à retrouver la plasticité du rêveur, à retrouver la fluidité et la cristallinité de notre nature liquidienne. Allez écouter les émissions que Patrick enregistre dans l'école buissonnière, je crois, c'est ça, avec Stéphane Drouet. Ce liquidien, comme à l'image du film de science-fiction, Abyss, où les héros voient des phénomènes lumineux et une colonne tourbillonnante d'eau qui, pour communiquer avec eux, prend leur propre visage. Plasticité liquidienne, comme Mahananda Moyi. Dans la Kabbalah, que je vous présenterai bientôt, voici un rapide aperçu des trois lettres racines du mot qui signifie « humain ». Dans le langage de la conscience, évidemment. Ces trois lettres, Aleph, Nun, Shin. Maintenant, regardons-les. Aleph et Shin, première et troisième lettres de la racine, signifient le feu de vérité, ce qui brûle sans consumer, resplendit, illumine, crée. Et la lettre Nun, au centre, signifie ce qui émerge des eaux, le grouillement du vivant, né des chocs de force dans les eaux matricielles, se structurant, se déstructurant et se restructurant à l'infini, comme dans le rêve. Et que ce feu féconde, ensemence, pour en faire jaillir toutes les formulations possibles de la conscience. Voici une définition du rêveur humain sur laquelle nous pourrions méditer.
Merci beaucoup.
Merci Jordan, Patrick.
Et à la semaine prochaine.
À bientôt.